Partager en étant juste que on est à la fin du périple d'Alette, ouais. Mais, ouais, on est vraiment tout à la fin du périple d'Alette. Là, tu m'entends?
Très bien, oui. Rêve ta brave.
Attends. Tu
J'attends.
Et plus tout seul.
J'entends
Non, t'es pas du code.
pas. Mais je vais pas le dire. Ouais, si, quand j'ai entendu, j'ai entendu.
Je crois qu'il y a eu, ouais. Une seconde.
Non. La voix,
Une seconde.
je
Une seconde. On va commencer dans une seconde. D'accord. Qu'est-ce qui se passe? Il apparaît, il est rentré. Il apparaît, c'est rentré. Ah, c'est OK. Alors, on va commencer. On va commencer. Enfin, rapidement le quatrième pérec. On va commencer. On va rentrer vraiment dans le vif du sujet, c'est-à-dire la suga de Kamsa et Bar Kamsa, etc. Et le cinquième pérec. Donc, jusqu'à là, on avait vu pourquoi est-ce que les différences entre le premier Beth Amikdash et le deuxième Beth Amikdash, que dans le, pardon, excusez-moi. D'accord. Et dans le premier Beth Amikdash, c'était les trois fautes qui étaient dominantes. Donc les trois fautes cardinales, alors que dans le deuxième Beth Amikdash, c'était la Sinatrinam, on a proposé plusieurs explications. Alors il dit maintenant, là-dessus, donc en fait tout ça part ça démarre d'un Mahamar Chazal, tout ça, c'est pas une spéculation du Maharal. Et donc là-dessus il dit comme ça, il dit, la fin du Mahamar Chazal c'est quoi? Arishonim shenit gala avonam nit gala kitsam. Les premiers que leur faute, c'est une faute dévoilée, elle est écrite, alors la fin, elle est aussi dévoilée. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, comme on a dit, que dans les premiers, Nidgala Khatam, ouais, c'est quoi? C'est qu'ils étaient écrits dans la Torah. Dans le Nahr, on peut voir les détails de leur faute. Une seconde. Juste une seconde, ça vous dérange pas? Juste, je pense qu'on peut réduire. Ok. Donc les premiers que leur faute, elle était dévoilée. C'est-à-dire quoi qu'elle a été dévoilée? C'est-à-dire qu'elle a été écrite dans la Torah, donc la fin aussi, elle a été dévoilée. Et à part ça, il y a un deuxième aspect, c'est que leurs fautes, c'était des fautes qui étaient des fautes publiques. C'est-à-dire que tu as des gens qui font Avodah Zara, qui font Guilouy Arayot, qui font Shfichut Damim, c'est public. Pardon, seconde. Tu viens pour le sourd? D'accord, enchanté. C'est
Avec Cohen.
D'accord, enchanté.
Avec
Avec plaisir. Juste une seconde. Gestion de zoom. Voilà. D'accord. En fait, on était en train de parler du pourquoi de la destruction du temple. On a parlé dans les dernières semaines du fait que. Je te laisse t'asseoir. Voilà, on avait parlé du fait qu'il y a deux Beth-Amikdash, que le premier il a été détruit à cause des trois fautes, des trois péchés cardinaux, c'est-à-dire Guiloé Arayot, Avodah Zara et Shefrut Damim. Tandis que le deuxième Beth-Amikdash a été détruit à cause de la Sinatrina. Donc là-dessus, on avait expliqué en détail, mais c'est le passé, c'est pas forcément important pour maintenant. Pourquoi est-ce que chacun des Beth-Amikdash, il a eu cette expérience-là qu'il a eue? Et là-dessus, la Gemara dit comme ça, que le premier Beth-Amikdash, non seulement il a été détruit à cause des trois fautes, mais aussi ces fautes-là, elles sont publiques. Avodah Zara, c'est une faute qui est. Si on croise quelqu'un en train de faire Avodah Zara, ça se voit. Shefrut Damim, quelque part, c'est visible, c'est observable, c'est public. Guiloé Arayot, quelque part aussi, c'est quelque chose d'observable. Alors que Sinatrinam, ce n'est pas quelque chose d'observable. Pourquoi? Parce que Sinatrinam, un des caractères de Sinatrinam, c'est quoi? C'est que quand on se voit, on se fait des sourires hypocrites, et derrière le dos, on se lance des poignards. On poignarde les gens dans le dos dès qu'ils ont le dos tourné, mais quand ils sont en face de nous, on leur fait des sourires. Donc c'est une faute qui est discrète, c'est discret. Et donc il y a une différence, non seulement dans le type des Averroes. Premier Beth Amikdash, c'est des Averroes claires, le meurtre, l'adultère, l'idolâtrie, c'est des choses qui sont claires, c'est des choses qui sont évidentes. Alors que le deuxième Beth Amikdash, c'est pas marqué dans la Torah, mais même le reconnaître, c'est pas évident. Pourquoi? Parce qu'il faut vraiment être dans le cœur des gens. Les gens, t'as un problème avec moi? Mais non, mais je t'adore, t'es très bien, mais non, mais j'ai aucun problème. Alors au fond de mon cœur, ce type-là, s'il pouvait disparaître, s'il pouvait vraiment se volatiliser, bah, ma vie, elle serait meilleure. Mais ça, c'est quelque chose qui n'est pas dévoilé. C'est pas Nidgala. Donc, la Gemara dans Yoma dit comme ça. Le premier Beth-Amikdash, les fautes qui ont mené à la destruction, c'est des fautes publiques, des fautes dévoilées. Et bien, puisque les fautes, elles étaient dévoilées, la fin de la galoute aussi, elle a été dévoilée. Tandis que le deuxième Beth-Amikdash, puisque la faute, c'est une faute qui est secrète, alors la fin de la galoute, elle n'est pas dévoilée. Ça veut dire quoi? Comme on sait que le premier Beth-Amikdash, il y a une limite, là, il y a la destruction, et puis après, il y a 70 ans. Au bout de 70 ans, vous reviendrez en Eretz Israël. Il le savait, il y avait une névoa là-dessus. Il y avait une névoa. D'ailleurs, même les autres, c'est-à-dire que Achashverosh, il a fait un micheté parce qu'il pensait que les 70 années, elles étaient arrivées et que les Juifs, ils étaient encore en exil. Donc il a dit, bon, bah, ça y est, je suis tranquille. Jusqu'à la fin des 70 ans, il se pensait tranquille. Dès qu'il a pensé que les 70 ans étaient écoulés et qu'il ne s'était rien passé, il dit, bon, bah, tout va bien. Donc il s'est permis de faire le micheté, de mettre les habits de Kohen Gadol, etc. Pourquoi? Comme on a dit, qu'il savait qu'il y avait une limite de 70 ans. Alors que le deuxième Beth Amikdash, il n'y a aucune limite qui a été donnée. Ça fait beaucoup plus que 70 ans qu'on est en exil, malheureusement. Donc il dit, le Maharal explique comme ça. Peut-être que vous voulez partager. Vekamarsham, Arishonim shenit gala avonam nit gala kitsa. Perush, Arishonim shenit gala chet am, mipnei sharishonim ikar chet am shayunim shachim achar yitzram lasot peulot raot begalouy. Les premiers, donc ceux du premier Beth Amikdash, c'était des gens qui étaient attirés par leur yetzer pour faire des actions mauvaises de manière dévoilée. Et puisque c'était dévoilé, leur punition aussi elle était publique. Et donc, la finalité de la punition aussi elle était publique. Pourquoi? On va voir ça. Par contre, les derniers, c'est-à-dire ceux du deuxième Beth Amikdash, puisque leur faute, c'est une faute secrète, puisque leur faute, elle est dans le cœur, qui est secret, donc leur faute, elle n'est pas publique. Donc, la fin, elle n'est pas publique. Et ça, c'est juste, c'est la formule. Une faute dévoilée, ça entraîne une punition publique. Une punition publique, elle a une fin, une échéance publique. Claire, évidente. Ouais. C'est-à-dire que les premiers, on disait, qu'est-ce qu'ils ont fait comme Averroth? Tu pouvais demander à n'importe qui. Guiloé Arayot, Avodah Zarah, Shefrut Damim. Punition, depuis le début, on dit 70 ans. D'ailleurs, la destruction avait été annoncée par les Névi'im. Non seulement, donc, les fautes, sont écrites dans la Torah. La destruction du premier Beth Amikdash, elle est écrite dans la Torah. Et les 70 ans, l'échéance des 70 ans, elle est écrite dans la Torah. Tout est public. Tout est dévoilé. Tout est au-dessus du sol. Le deuxième Beth Amikdash, si on demandait aux gens, vous êtes des gens bien, vous faites des Averroth? Non, non, moi je suis quelqu'un de correct. Et vous vous aimez les uns les autres? Oui. Et il n'y avait personne pour annoncer la destruction. Justement, il n'y avait personne, la destruction n'avait pas été annoncée. Et du coup, Puisqu'on est tout dans, c'est tout souterrain, puisqu'il n'y a rien de public, il n'y a rien d'évident, mais en fait, la fin de la galoute aussi, elle n'est pas annoncée. Puisqu'il n'y avait rien d'annoncé, il n'y avait rien de public. C'est 500 ans à peu près, 400 ans, quelque chose. 410, le premier a duré 500 et le deuxième 410. Voilà. Et dit, il y a une explication comme ça. Pourquoi? Parce que les premiers, c'était des gens qui étaient plus grands. Donc, les gens, quand quelqu'un de grand, il fait quelque chose, ouais, ça laisse des traces, ça laisse des marques. Quelqu'un, moi, chez moi, je me suis réveillé du pied gauche, c'est pas très grave. Ouais. Trump, il s'est réveillé du pied gauche, il y a le monde entier qui tremble depuis 3 jours. Le monde entier qui tremble depuis 3 jours, c'est la panique de tous les côtés, t'as la bourse qui est en train de dévisser comme ça. Ouais. Pourquoi? Parce que c'est quelqu'un d'important. Les gens qui sont importants, leurs actions laissent des traces. Ouais, ça marque. Ouais, ça marque les esprits, mais ça marque l'histoire du monde. Donc, les premiers et leurs actions, puisqu'ils étaient plus grands, ça laissait plus de traces. Machenken, les derniers, ben en fait, même la Sina, elle laisse pas de traces. C'est-à-dire que la Sina, elle est présente, mais elle est. Quelqu'un qui fait des fautes publiques et quelqu'un qui est grand, ouais, on se rappelle tous de l'affaire Clinton, on se rappelle tous, ouais, de Bill Clinton, etc. Quand quelqu'un de grand, il fait des avérotes, ça laisse des traces et le collectif, il reste marqué. C'est-à-dire que 30 ans après, on pense encore, on se rappelle encore de cette histoire et commence à influencer les mœurs et plein de choses. Alors que quand quelqu'un de petit fait des choses, ça laisse pas de traces. Ça peut avoir des effets à long terme, mais les traces, il faut aller vraiment les chercher. C'est pas des traces, c'est des petites rayures dans le parquet. Ouais. Ces petites rayures dans le parquet. Mais pas plus que ça. C'est pas des traces. Et donc, la faute du premier Beth Amikdash, elles étaient tellement fortes qu'elles ont laissé leurs traces dans le monde à tel point que c'en est devenu de la Torah. La Torah, elle donne une image du monde, donne une image du monde. Et donc, puisque le monde de l'époque, il était tellement marqué par la vérote des gens, que ça a fini que même la Torah, elle en a été influencée, que dans la Torah, dans les Névi'im, il a fallu marquer leur faute. Ouais, la Torah, elle est éternelle. La Torah, elle est éternelle. Les Névi'im, ils sont éternels. Les Ktouvim, ils sont éternels. Ouais. Et quand même, les fautes des gens du premier Beth Amikdash étaient tellement grandes que c'est rentré dans le Tanakh. Ça veut dire que c'est à tel point, ça a laissé une trace. Moi, je fais quelque chose, c'est pas écrit dans la Torah. Pour que ça soit écrit dans la Torah, il faut que ça soit quelque chose qui est tellement fort que le Navi doit en parler, que ça doit rester marqué dans le Tanakh, dans les Sifrei Kodesh pour l'éternité. Non, déjà avant, parce que les Névi'im, ils en parlaient déjà avant. La destruction du temple, c'est une conséquence de cette faute-là. Et leurs fautes, elles ont laissé tellement de traces que le Navi en a parlé, et en fin de compte, ça a amené à la destruction du temple. Mais leur faute, c'est une faute qui est de l'ordre de l'écrit. Ouais, encore une fois. Ce que fait Trump, c'est marqué dans les journaux. Ce que je fais moi, c'est pas marqué dans les journaux. Mais là, on parle pas des journaux. Ouais, on parle pas du Figaro, du Monde, du New York Times. Là, on parle du Tanakh. Et ces fautes, elles étaient tellement grandes qu'elles méritaient d'être marquées, d'être inscrites dans le Tanakh. Donc, tout est inscrit. Et puisque tout est inscrit, alors leur punition aussi, elle fait partie d'une démarche écrite. Il y a une logique. À partir du moment où tout ce qui se passe au sujet des Rishonim, il est écrit, c'est écrit. Donc leur faute, elle est écrite. Donc il faut aussi tout écrire le reste, les conséquences de la faute. Ouais. Encore une fois, quelqu'un, un homme politique qui fait quelque chose, alors on aura des analystes qui vont détailler le geste et ses conséquences. À partir du moment où leur faute, elle devient inscrite, elle est inscrite, alors il faut expliquer aussi les conséquences. Parce que tu peux pas juste écrire la faute et t'arrêter là. Faut écrire tout ce que la faute, elle ramène. Il y a un mécanisme. Une fois que quelqu'un il fait une faute, ça s'appelle Khataim Tirdovra. Celui qui fait une faute, il est poursuivi par les conséquences de ses actes. Donc, si la faute, elle est inscrite, les conséquences aussi, elles doivent être inscrites parce que ça fait partie de la faute. Pour que tu comprennes vraiment la faute, il faut montrer jusqu'à où ça va. Et donc, dans la Torah, c'est marqué jusqu'à où ça va. Et il y a marqué juste cette faute, elle va jusqu'à 70 ans. Mais la faute de ceux d'après, elle a laissé moins de traces. Elle a laissé moins de traces et donc c'est pas marqué dans la Torah. Et puis c'est pas marqué. Du coup, on n'a pas détaillé non plus les conséquences de la faute. Les premiers, c'était tellement grave que ça a été inscrit dans la Torah leur faute. Puisque la faute, elle est inscrite, alors il faut développer aussi, mais une faute, c'est quoi? Une faute, c'est pas juste que quelqu'un, il a fait une bêtise. Quand quelqu'un, il fait une bêtise, il fait quelque chose qui a des impacts cosmiques. Ça va détraquer le monde entier. Regarde dans les Sfarim, que ce soit le Ramchal, que ce soit le Nefesh HaChaim ou dans les Sfarim de Kabbalah, on voit que l'impact des gestes de l'homme, il est gigantesque, il est inimaginable. Donc, puisque la Torah, elle écrit la faute sous tous ses aspects, sous toutes ses coutures, et donc sous l'aspect aussi de qu'est-ce que la faute, elle a amené. La faute, elle a amené le Khourban Beit HaMikdash et la galoute pour 70 ans. Parce que c'est une description, c'est un élargissement de la faute. On t'explique la faute. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait ça. Et c'est quoi ça? Bah, ça, je vais te dire, c'est quoi? C'est que non seulement tu as fauté, mais tu as détruit le temple et 70 ans, vous serez en galoute. Ça fait partie, quand tu décris la faute, tu décris les effets de la faute aussi. Machen Ken dans le Beit Sheni, la faute, c'est une faute qui est, elle est anonyme quelque part. Donc en fait, c'est pas marqué et les conséquences non plus, elles sont pas marquées. Mais c'est pas marqué dans la Torah. Non, on le sait, c'est de l'histoire, mais c'est pas de la Torah. C'est marqué dans le Tanakh. Ben, c'est marqué nulle part parce qu'il n'y a pas de Tanakh dans le Beit Sheni. Il n'y a pas de Tanakh, c'est fini, il a été verrouillé. Oui, c'est l'onit nalikatev, Chanouka. Même Chanouka déjà, c'est quelque chose qui est complètement, on est dans l'oral, on n'est plus dans l'écrit. On est dans la tradition, on est dans l'oral, dans le BLP. Tout ça, ça s'arrête là-bas. C'est la dernière chose du Tanakh qu'on a, c'est la Megillah. Qui est juste après, qui est après le Beit Rishon, avant le Beit Sheni.
C'est
Mais c'est le dernier. Et c'était pas évident qu'on le rentre dans le Tanakh. Mais le Khurban Beit Rishon, il est écrit dans le Tanakh. C'est-à-dire qu'il est écrit en toutes lettres. Tout est écrit en toutes lettres. On a Irmiya, Yeshaya, Echa. Ben non, il n'est pas écrit parce qu'il n'y a pas de Tanakh. Il n'y a pas de Tanakh. Donc en fait, c'est Chachamim. Mais Chachamim, ils analysent, ils ont des traditions. C'est Torah chez
On
BLP.
n'est plus dans le système du Tanakh.
Du Tanakh. On n'est plus dans l'écrit, on n'est plus dans la Ktiva. Et donc la faute, elle est anonyme. Et puisque la faute, elle est anonyme, bah, les conséquences non plus, elles ne sont pas détaillées, elles ne sont pas explicites. Donc ça, c'est une première chose. C'est une première chose. Donc il y a un premier aspect ici, c'est quoi? C'est qu'en fait, si je dis, écoute, si une faute qui est inscrite dans le journal, quelque chose qui est inscrit dans le journal, ouais. Alors le lendemain, on va ouvrir le Figaro, on va avoir des analystes qui vont détailler les conséquences de la rencontre entre Trump et Zelensky. Ouais, donc il y a le Maasé, et il y a toutes les conséquences. Et on va avoir sur le côté le tableau de la bourse. Ouais, encore une fois, on a le rouge de partout. Et tout ça, c'est les effets. On écrit la chose et on en décrit les effets. On écrit la faute et on décrit tous les effets de la faute. Mais puisque la faute du Beit Sheni, c'est une faute qui n'est pas écrite, bah du coup, on ne peut pas en décrire les effets, donc on ne peut pas décrire la fin. Mais alors il y a une question quand même, c'est que si la faute du Beit Sheni, c'est une faute qui n'est pas tellement puissante, qui n'est pas tellement forte, alors comment ça se fait qu'on ait 2000 ans en galoute alors que le premier Beit HaMikdash, on était 70 ans? Mais la deuxième première aussi, c'était il y avait une débauche collective. Tout le monde, où il y avait énormément de gens qui faisaient à votre, qui faisaient, c'est à période là, c'est quelque chose de collectif. Alors, l'Ikhora, il y a une première explication qui est la suivante. C'est que quelque chose qui n'est pas dévoilé, quand on te le met en face, ouais, quelqu'un qu'on le met en face de ses problèmes, et que voilà, il se lève le matin, et en toutes lettres, il a marqué, tu es un pourri. Ouais. Donc, on lui met un miroir en face de lui-même, et qu'il est obligé de se regarder. Nous, dans la vie, on veut beaucoup fermer les yeux, on ne veut jamais se regarder dans un miroir. Il y a beaucoup de gens, ils ont besoin d'être occupés tout le temps. Pourquoi? Parce que s'ils arrêtent un moment, ils sont obligés de se confronter à eux-mêmes. Ils se regardent et disent, mais je suis pourri en fait. Donc les gens, ouais, les goyim, ils passent le boulot, après il y a ça, et les jeunes surtout, et la fête, et le machin, parce qu'il y a une fuite en avant. Mais quand on prend un miroir et qu'on te le met en face de tes yeux, et qu'on te garde les yeux ouverts, et qu'on te confronte à ça, bah alors forcément, la tchouva, elle est plus facile. Parce que maintenant, tu sais que ça ne va pas du tout. Tu sais, on t'a présenté, toi, on t'a présenté toi-même, on t'a mis, on t'a, on dit, tu sais, cette personne-là, là, c'est pas quelqu'un d'autre, c'est toi. Une fois qu'on te dit ça, bah, t'as pas le choix. T'as pas le choix, il faut que tu changes. Parce que tout le monde sait, quelque part, que t'es pas au niveau. Donc, quand c'est clair, quand tu as présenté à toi-même, quand tu as mis en face de qui tu es, la tchouva, elle est plus rapide. Mais quand la faute, en fait, elle est pernicieuse, qu'on ne nous dit pas c'est quoi, qu'en fait, les gens, ils se disent, mais moi, je suis bien, en fait. Moi, je vais à la choule 3 fois par jour, j'étudie, voilà, je fais toutes les mitzvot. Alors, pourquoi? Moi, c'est pas moi le problème, c'est les autres. Alors, on nous dit, oui, c'est la sinatrinam. Mais la sinatrinam, c'est les autres. Moi, la sinatrinam, ben non, moi j'aime les juifs, moi, ouais. Tout le monde parle comme ça, ouais. C'est pas moi la sinatrinam. La sinatrinam, c'est toujours les autres. Ouais. Si les autres, ils étaient bien, moi, le monde serait parfait. Moi, je suis déjà bien. Donc, puisqu'on ne nous met pas en face de ça, ben en fait, la tchouva, elle n'est pas facile. La tchouva, elle n'est pas facile. Ça, c'est Rabbeinu Yonah, il dit dans le Shaare Tchouva que moins les fautes sont graves, plus dure est la tchouva. Moins les fautes sont graves, plus dure est la tchouva. Parce que on se dit encore une fois, mais moi, au fond, je suis quelqu'un de bien. Oui, j'ai un truc. Il y a quelque chose qu'il faut que je corrige. Mais ce n'est pas urgent, parce que fondamentalement, je suis quelqu'un de bien. Je suis bon. Ouais. Je suis bon. C'est-à-dire. On se débrouille, ouais, c'est comme dans le sport. C'est-à-dire, si on est basketteur et que le seul truc qui nous manque, c'est tirer à 3 points, bon, ben, c'est pas la fin du monde. Ouais, c'est pas la fin du monde. Ouais, je suis bon. Quoi? Demain, c'est un nouveau jour. Puisque la faute, elle n'est pas évidente et qu'elle n'est pas explicite, bah, du coup, on se prend jamais la peine de faire choix. Donc, c'est pour ça que c'est réel. Mais c'est pour ça qu'en fait, quelque part, bien que la sinatrinam, elle est moins grave, mais elle est plus fondamentale, elle est plus pernicieuse, elle est plus enracinée en nous. Donc c'est pour ça qu'en fait, la galoute, elle dure beaucoup plus longtemps. Baït Rishon, on les a mis en face de leurs problèmes. Et il va falloir résoudre. Il y a des choses qu'il va falloir résoudre ici, Rabotai. OK, c'est résolu, c'est résolu. Mais là, on continue comme ça, comme si de rien n'était, on continue à se disputer, disputer. Mais c'est pas ma... Si on se dispute, ce n'est pas de ma faute, c'est juste les autres qui ne sont pas abcédaires. Si les autres, ils faisaient comment, on n'en serait pas là. Ouais, comme toutes les marchloquettes, c'est toujours la faute de l'autre. Moi, je suis pas un bal marchloquette. C'est l'autre qui est un bal marchloquette. C'est l'autre qui est pas baissé. Voilà. En plus, c'est un rachat. C'est un rachat. La seule personne qu'on a le droit de détester, c'est le rachat. Ouais. La seule personne qu'on a le droit de détester, c'est le rachat. Donc maintenant, si c'est un rachat, bah, j'ai le droit de le détester, puis c'est un rachat. Donc en fait, puisqu'on nous a pas vraiment mis en face de notre problème, bah, du coup, bah, la galoute, elle peut continuer, continuer, continuer. Mais, il dit, Vedavar Zeinyanamok Meod, c'est quelque chose de très profond et qu'il faudra peut-être développer de par la
C'est-à-dire que
suite.
les premiers
Oui, le peuple, il a fait tchouva. Mais oui, mais en fait, c'est ça qui se passe, en fait. En fait, c'est ça qui se passe. C'est-à-dire qu'en fait, les choses qui sont explicites, elles sont dehors, elles sont superficielles. Il y a une idée qui est que Da'aga b'lavi she'asichena. Ouais. Quelqu'un qui a une angoisse, il faut qu'il en parle. Pourquoi? Parce que le fait de parler, ça fait, il y a quelque chose qui est au fond de moi. Au fond de moi, c'est moi. C'est que moi. C'est dans mon cœur. Et du coup, je suis obsédé par cette pensée, par cette angoisse. Elle m'habite et elle prend contrôle de ma vie. Et dès que j'en parle, ben en fait, quelque part, je l'ai extériorisée, elle n'est plus que dans mon cœur. Ce que je parle, ça ne fait plus partie de moi. On la partage, mais du coup, c'est plus quelque chose d'absolument personnel, c'est plus moi. J'ai vu une idée une fois que, je crois, le sabbat de Kelem, il avait dit qu'une fois, il avait une idée, une pensée de Moussard, et qu'il n'avait pas dit pendant 40 ans. Tant que dans son cœur, l'idée, elle était forte, et que vraiment, c'était quelque chose qui le faisait avancer et vivre, il ne voulait pas la partager. Parce qu'il dit, si je vais la partager, je vais l'abîmer. C'est plus quelque chose de profond, c'est quelque chose de superficiel. Mais donc, tant que cette idée, elle est très forte, je la partagerai pas. Mais une fois que je sens que cette idée, elle s'émousse, alors je la partagerai avec les autres pour qu'eux, ils l'entendent. Donc, c'est ça la même idée, c'est que la faute du deuxième Beit Hamikdash, c'est une faute du cœur. C'est une faute qui, quelque part, elle est légère, elle est pas violente, mais elle est beaucoup plus profonde. Elle est beaucoup plus pernicieuse. C'est-à-dire, c'est comme là. C'est une idée comme ça, c'est que les actions, les gestes, ils laissent des traces. Mais quelque part, les idées, même qu'elles ne laissent pas de traces directement, mais une idée, elle fait son chemin, elle fait son chemin, et au lieu de faire une trace, elle va changer le monde entier. Quelqu'un qui a une conviction, Quelqu'un qui est énervé donne un grand coup dans le mur, il y aura quelque part un petit trou dans le mur, peut-être, le mur il est fragile. Mais quelqu'un qui a une idée, et que cette idée vraiment, il travaille cette idée, que cette idée elle la travaille, bah avec cette idée, avec des petites choses, mais il changera le monde. Donc en fait, c'est pour ça que le bail de chenille, quelque part, c'est moins grave, mais c'est beaucoup plus profond, beaucoup plus étendu et beaucoup plus difficile à résoudre. Voilà, ça c'est la fin du quatrième pérec. Maintenant, on va commencer le cinquième pérec. Le cinquième pérec, c'est une mara fameuse. Oui, tu voulais dire quelque chose?
Alors oui, juste une question, ça veut dire concrètement, enfin, comment est-ce qu'on va arriver à être Metaken ce Inen-là? C'est vrai que ça fait tellement longtemps qu'on est là-dedans, et en plus il y a une Iridata de Roth, c'est de pire en pire. C'est quoi l'espoir d'arriver à être retiré ça, quoi?
Ben, c'est ce que il y
Une fois
a.
qu'il y a Bégalou, on arrive à comprendre qu'il y a des choses qui vont nous aider à nous en séparer, mais une fois qu'il est si profondément ancré,
Alors,
c'est quoi l'espoir?
c'est intéressant comme question, mais il y a un Maamar Chazal qui dit comme ça, qui dit que à la fin des temps, les Juifs, ils doivent faire tchouva. Et s'ils font pas tchouva, Hachem, il leur envoie un roi qui est dur comme Aman et il les force à faire tchouva. Mais une fois qu'on a établi que la faute, c'est la sinatrinam, donc ce roi qui est dur comme Aman, il nous laissera pas le choix que de faire tchouva. C'est-à-dire qu'en fait, si on s'y était un peu mieux pris, et si on n'avait pas laissé certaines personnes tout casser, mais en fait, l'idée, elle est que, par exemple, à Ahdout, qui avait post-7 octobre, il aurait fallu tout faire, se battre pour la conserver. Et si on avait réussi, alors c'est ça la tchouva dont on parle,
C'est pas chytrite,
fondamentalement.
c'est pas chytrite, elle est pas chytrite cette Ardoute. C'est lié à une matara particulière, mais est-ce que ça enlève en réalité les ressentiments profonds? Enfin, il y a un problème.
Non, une fois qu'on a défini que la sinatrinam, c'est quelque chose qui est au fond, que le peuple juif, fondamentalement, il est uni, et que le Yetzer, il travaille très dur à le désunir, alors en fait, c'est un peu l'idée de Kofinoto Hachiyoma Rotseani. Il y a une idée que quelqu'un qui veut pas amener son korban. Ouais, tu as déjà croisé cette idée de Kofinoto Hachiyoma Rotseani? Ça veut dire que
Le
quelqu'un,
Rambam,
oui, que quelqu'un qui a fait une avéra, il doit amener un beshogeg, il doit amener un khatat. Il dit, je veux pas. On le frappe jusqu'à qu'il dise oui. Pourquoi? Mais quand il dit oui, en fait, il veut. Pourquoi? Parce qu'en fait, un juif, il veut faire les mitzvot. Le Yetzer Hara, il en empêche. Et quand on le frappe, bah, ça ramollit la résistance, ça adoucit la résistance. Donc, moi, je pense à l'inverse, que la hardoute qu'on a tous ressentie après 7 octobre, elle était vraie. Parce que le Yetzer Hara, il était plus en mesure à ce moment-là d'agir. Mais après, les athléas dans les journaux, dans les émissions, etc., etc. Il y a un travail de sape que l'Etzara, il a fait pour que cette hardoute ne dure pas. Mais la tchouva, ça, c'est, on a une garantie qu'à terme, oui, mais elle n'a pas tenu. Quelque part, elle n'a pas tenu autant qu'on voudrait. Mais à terme, on a une garantie que cette tchouva-là, elle se fera. La tchouva dont on parle, c'est pas de prier plus Bekavana, c'est pas, non, non, la tchouva dont on parle, c'est une tchouva qui est beaucoup plus fondamentale, c'est de revenir au peuple juif. Alors, quelqu'un qui fait pas Shabbat, il aura beau, pour revenir au peuple juif, il doit faire Shabbat. Et ouais, c'est pas facile. Si tu veux revenir au peuple juif, faut faire les mitzvot. Mais la tchouva dont on parle, c'est pas juste de revenir vers soi-même, c'est de revenir vers le peuple juif. Et ça, on a une garantie, comme ça, ils nous disent Chazal, que ça se fera. Voilà.
Merci beaucoup.
Alors, ici, donc ça c'est dans le cinquième pérec, on va rentrer dans les détails de la destruction du deuxième Beth Amikdash. C'est une fameuse Gemara dans Gittin. Ouais, je sais pas ceux qui, certains ils sont peut-être là quand Rav Brandt il fait l'intégrale de cette Gemara. Voilà. Donc ici il y a un Maamar Chazal qui est détaillé. On va l'étudier dans les mots aujourd'hui. On verra ce qu'on a le temps de développer. Rabbi Yochanan il dit comme ça. Qu'est-ce qui a marqué? C'est quoi qui a marqué? Ashrei Adam Mefached Tamid. Heureux l'homme qui a toujours peur, et celui qui durcit son cœur, il tombera dans le mal. De qui parle-t-on? Akamtsa ou Bar Kamtsa Charev Yerushalayim. Cette Gemara, elle parle de Kamtsa et Bar Kamtsa, par lequel Yerushalayim a été détruit. On parle aussi, ouais, dans le même ordre d'idée, à cause d'un coq et d'une poule, Tourmalka, la montagne royale, elle a été détruite à cause d'un attelage de femmes. Betar a été détruite. C'est quoi? À Kamsa ou Bar Kamsa, Chareb Yerushalayim. Il y avait cet homme qui avait un ami qui s'appelait Kamsa et il avait un ennemi qui s'appelait Bar Kamsa. Ouais. Donc il avait un grand ami qui s'appelait Kamsa et son ennemi s'appelait Bar Kamsa. Et donc cet homme-là, cet illustre inconnu, il a fait une séouda, il a dit à son serviteur, ramène-moi Kamsa. Et il s'est trompé, il a ramené Bar Kamsa. Et donc le Balabait, il arrive, il voit que Bar Kamsa, il est installé, il lui dit, qu'est-ce que tu fais là? Sors d'ici. Alors il dit, oui, mais maintenant que je suis là, laisse-moi, je te donnerai la valeur de ce que j'ai mangé. Je paierai mon repas. Il dit, non, tu sors. Il dit, je te paye la moitié de la Séouda. Il dit, non. Il dit, je te paierai toute la Séouda. Et le Balabait, il a dit non. Et il a pris, en français, on dit, il a expulsé, il a foutu dehors. Manu militari. Nacté, vafke. Ouais. Et il a pris. Alors, il a dit, puisque c'est comme ça, et puisqu'il y avait les Chachamim qui étaient là-bas et qui ont laissé faire, donc on voit que ça les dérangeait pas. Et donc, je vais dire du Lashon Hara à leur sujet chez le roi. Il a dit, il est parti donc chez le roi, chez le Kessar, il a dit, les Juifs, ils sont révoltés contre toi. Il a dit, qui dit? Le roi, il a dit, bah, attends, faut que tu étayes tes dires. Faut que tu justifies. Tu peux pas arriver et dire, les Juifs sont révoltés. Et moi, je vais accepter ça tel quel. Il dit, envoie-leur un corban et on verra s'ils acceptent ou pas. Il est parti, il a envoyé un Eglatilta, donc un veau de très bonne qualité. Et alors que donc Bar Kamsa, c'était lui qui avait été mandaté pour amener le corban, et il lui a fait un moum à la commissure des lèvres. Et donc, c'est un corban qui n'est plus Raoul. Ouais, ou bien quelque part dans le coin de l'œil. Pourquoi? Parce que c'est des momies. Les goyim, si on leur dit, cette BMA, elle est unijambe, elle lui manque une jambe, ça, ils disent ça, on comprend que ça va pas sur le Mizbéar. Il y a des moumims que les goyim, ils acceptent, c'est des défauts. Les goyim, même un romain, il peut comprendre que si elle s'est cassée une jambe, bah, tu vas pas amener ça à Dieu. C'est pas une offrande valable, c'est pas digne. Mais ça, c'était des moumims que les goyim, ils reconnaissaient pas comme tels, mais que la halakha, elle considère comme des moumims. Donc en fait, Bar Kamsa, il a fait quelque chose de très vicieux. Et donc maintenant, les Chachamim, ils ont dit, à cause du roi, même que techniquement, c'est pas un bon corban, mais il faut l'envoyer, Mishum Shlam Malchut. Et Rabbi Israël ben Avkoulas, il a dit, alors on va dire que les animaux défectueux, on les amène sur le Mizbéar. Alors qu'est-ce qu'on va faire? Donc toi, tu dis qu'on peut pas amener ce corban. Alors qu'est-ce qu'on va faire? Alors, il faut tuer Bar Kamsa pour qu'il puisse pas nous dénoncer. Alors, Rabbi Israël, il a dit, alors si on tue cet homme-là, les gens, ils vont dire qu'à partir de maintenant, celui qui abîme un corban, eh ben on va le tuer. Donc ça va faire une dérive et les gens ils vont pas comprendre ce qu'on fait, donc faut pas le faire. Rabbi Yochanan, il a dit, la hanvanout, l'humilité littéralement, le fait qu'il a supporté Bar Kamsa et qu'il a pas tué, elle riva et betenu, elle a détruit nos bêtes amigdash, sarfa et techalenu, elle a brûlé notre palais, et elle nous a fait exiler de nos terres. À cause de Rabbi Israël ben Avkoulas, parce que c'est un grand sadique, à cause de sa tzidkout et du fait qu'il voulait être sauvé, il supportait, il dit non, mais c'est vrai que c'est une ordure, c'est vrai que Bar Kamsa c'est un danger public, mais on peut pas le tuer. À cause de ça, c'est lui, par sa compassion, son empathie, elle a tué, elle a détruit le Beth Amikdash, elle a exilé le peuple juif. Phrase très forte. Parce que c'était le Zaken chez Bassanidrine. Non, non, c'est de sa faute. Il aurait dû être plus intelligent que ça. C'est-à-dire que Rabbi Yochanan, il dit, il y a eu une erreur fondamentale. Et ici, la Gemara, ici, elle passe, qu'on appelle, elle passe un jugement. Rabbi Israël ben Avkoulas, il s'est planté dans les grandes largeurs. C'est pas moi qui le dis, c'est la Gemara. Ça, Anvanout, ça, Savlanout, elle a détruit le temple. Pas, c'est toi, c'est lui. C'est lui. Voilà, pas toi, t'as rien fait, mais en gros, la Gemara, elle dit, c'est lui qui a détruit le temple. Ça veut dire que c'est un grand yesod dans la vie islam. C'est pas du moussard, hein, c'est pas le sujet, mais que Les gens, ils pensent que les bonnes midot, elles doivent être absolues, que toujours faut être mévataire, et que toujours faut avoir pitié, que toujours faut supporter. Et on voit que non, des fois, quoi? Non, mais c'est souvent, c'est vrai qu'il s'est pas bien comporté, mais il faut être mochel, et c'est vrai qu'il doit de l'argent, mais il faut être mochel. Il faut être mévataire, il faut être mévataire, il faut être mévataire, il faut être mévataire. C'est vrai, mais il faut faire attention. Mais c'est-à-dire qu'en fait, il faut comprendre qu'il y a des fois où le vitour, il y a des gens, si on est mévataire, bah, il y a un danger. Alors, c'est peut-être pas le danger de la destruction du temple, mais des fois, il y a des dangers. Il faut calibrer, il faut peser le pour et le contre dans ces choses-là. Il ne faut pas arriver avec des grands discours de Avat Israël et vitour et faut tout laisser. Ben non. Alors ça, c'est une question, on va voir. Mais quelque part, si ça n'avait pas été fait, on aurait peut-être pu sauver la mise ou en tout cas la reculer.
On avait le droit de l'amener, c'est pas vrai?
Il aurait fallu, ça s'appelle Oracha, c'est le principe de Oracha. Non, non, c'est un danger, il y a un danger. Si tu le choix, c'est la guerre avec Rome ou tu amènes le Corban, tu amènes le Corban. Mais lui, il a dit, mais si on fait ça, hein, il va y avoir une dérive fondamentale de la Torah. Et puisqu'il y aura une dérive de la Torah, il ne faut pas le faire. Ça va faire un précédent. Rabbi Israël, il dit, c'est vrai que la circonstance, elle est atténuante. Elle est plus que ça. C'est-à-dire que la circonstance, elle demanderait qu'on amène le Corban, mais ça va être un précédent. Et du coup, les gens, ils vont se permettre tout et n'importe quoi. D'accord. Alors. Oui, ils auraient dû tuer Rabbi comme ça. Donc maintenant,
Mais on peut dire aussi, on peut
Oui.
dire qu'il y avait une nécessité d'être en galoute. Il fallait que le peuple juif il soit en
Mais c'est
galoute
pas
pour
notre
récupérer
problème.
Metsotot.
Mais c'est pas notre
Non?
problème. C'est pas notre problème. On doit
C'est pas vrai?
adopter un... Ça veut dire que nous, on doit adopter un comportement rationnel. On a un royaume, on a un Beth Amikdash, on doit adopter un comportement rationnel. Les cheshbonot de Dieu, c'est les cheshbonot de Dieu. C'est ce que d'ailleurs le Navi dit à Chizkiyahou, à Melech. Chizkiyahou, à Melech, on lui avait annoncé que son enfant serait un grand rachat. Donc il s'est pas marié. Et le Navi lui a dit, tu vas mourir. Il dit, mais on m'a dit. Il m'a dit. Alors le Navi il dit, c'est pas tes problèmes. Toi, on te demande de faire ce qu'il faut faire. Après ça, Dieu il fait ses calculs. Mais toi, tu fais ce que tu dois faire.
Mais elle équivaut à quoi la metziout de la Brira dans les Cheshbon à Kadosh Baruch? Est-ce qu'elle est vraie? Est-ce qu'on est vraiment une Brira s'il y a un Cheshbon à Kadosh
Ce n'est pas notre problème, encore une fois.
Baruch?
Ben, Nekifshana de Rahmana la Mali. Les chaudrons du bon Dieu, on s'en occupe pas. Ce qu'il fait, il fait ses fournaises, il fait ce qu'il veut, voilà, il fait ce qu'il fait, il a ses recettes. Mais toi, tu dois continuer, tu dois adopter un comportement rationnel. Ouais. De la même manière que quelqu'un qui est malade, on ne dit pas, de toute façon, peut-être qu'il doit souffrir, on va pas essayer d'atténuer ses souffrances. C'est pas comme ça qu'on réfléchit. On a quelqu'un de malade. On va essayer d'atténuer ses souffrances. On ne dit pas, mais peut-être que c'est la volonté de Dieu qui souffre et que c'est Kaparat Avonot. Dieu, il fait ce qu'il fait. Moi, je fais ce que je fais. Il ne faut pas mélanger les deux. Ouais,
Ok.
c'est. Ça te va comme réponse?
Très bonne. Merci.
D'accord. Donc, le Kessar, il a envoyé Néron. Néron, il a envoyé Néron à Yerushalayim. Quand il est arrivé, il a envoyé une flèche vers l'est. Elle est tombée à Yerushalayim. Il a tiré une flèche vers l'ouest, dans toutes les directions. Et la flèche toujours est tombée vers Yerushalayim, donc il a dit qu'il a vu que Dieu il voulait qu'on détruise Yerushalayim. Il a dit à un enfant, dis-moi quel passouk tu as lu. Il a dit, l'enfant, il a dit comme passouk, quel passouk j'ai appris aujourd'hui? Venatati nikmati be'edom be'yadam Israël. Ouais. Je vais venger de Edom pour ce qu'ils ont fait au peuple juif. Donc il a compris que Dieu il voulait que Edom il détruise le Beth Amikdash et qu'en fin de compte, Dieu, il va sauver le peuple juif et il va se venger de l'Édom. Donc Néron, il a dit, Dieu, il veut détruire le monde et après, c'est moi qui vais m'en prendre plein à la tronche. Il est parti, il a été mis de Gaillère. Et son descendant, c'est Rabbi Meir. Alors, est-ce que c'est le Néron historique ou pas? On sait que la femme de Néron, elle était historiquement, elle faisait partie de ceux qu'on appelle qui craignaient Dieu. C'était des gens qui, historiquement, ils faisaient les mitzvot. Même si on n'est pas absolument sûr qu'ils étaient convertis. Mais il y avait à Rome, c'est-à-dire c'est historiquement, c'est un fait intéressant, c'est qu'avant le christianisme, il y avait un grand courant de judaïsme chez les Romains. Il y avait beaucoup de gens qui étaient inspirés par le judaïsme et qui voulaient devenir juifs. Et après, le christianisme, il est arrivé et il a tout attrapé. Mais avant, les Romains, quand ils voulaient venir s'améliorer, ils devenaient Shomrei Torah. Ils n'étaient pas forcément juifs, mais ils faisaient les mitzvot. Donc, est-ce que c'est ce Néron-là ou encore un autre? Ça, c'est une question ouverte, je ne sais pas. Ça, c'est des. Voilà, il faut demander aux historiens, aux spécialistes de l'histoire juive. D'accord. Donc maintenant, ça, c'est le maasé de la Gemara. Je pense qu'on est dans notre majorité, on connaît la Gemara plus ou moins en détail. Voilà. Donc en tout cas, ce qu'on retient pour l'instant, en tout cas, pour l'instant, ce qu'on retient, c'est quoi? C'est que le point de départ de ce discours de Rabbi Yochanan, c'est le pasouk Ashrei Adam Mefached Tamid. Heureux l'homme qui a peur tout le temps. C'est quoi? C'est que les Chachamim, si, en fait, c'est comme ça. C'est que si Rabbi Yisrael ben Avkoulas, il comprenait qu'il y avait un danger, s'il vivait dans la peur, alors il aurait dit, écoute, si on fait pas attention, ça peut avoir des conséquences gravissimes. Si quelqu'un, il éprouve la peur, il comprend, donc il est plus enclin à analyser les conséquences de ses actes. Si Rabbi Israël ben Avkoulas n'était pas tellement confiant, il aurait compris que le fin fond de l'histoire, c'est quoi? Korban HaBayit, Galout. Mais en fait, il a mis d'abord sa savlanout, d'abord sa compassion, avant de réfléchir aux conséquences de ses actes. Donc, en fait, il n'avait pas peur, il était trop confiant. L'idée, elle est comme ça, c'est que tout ce qui est, il y a des choses que la Torah nous dit qu'il faut faire. Faut faire Shabbat. Tu fais Shabbat, sauf si on te dit qu'il y a un danger de mort. Il n'y a pas à réfléchir. Mais il y a des choses que tu dis, écoute, il y a des gens qui disent, voilà, moi je travaille. J'ai un travail, je gagne ma vie. Le soir, peut-être, je vais aller étudier. Le matin, je vais aller étudier. Et un jour, ces gens-là, ils se chauffent et ils disent, je vais aller étudier toute la journée, du jour au lendemain. Et on leur demande, oui, mais de quoi tu vas vivre? Et comment est-ce que tu vas payer ta maison? Etc. Non, moi, je suis confiant. T'es pas obligé de faire ça. Donc, puisque t'es pas obligé, peut-être que tu peux. Pardon, excuse-moi. Puisque t'es pas obligé, peut-être que tu peux réfléchir. Pardon, excuse-moi. Puisque t'es pas obligé, peut-être que tu peux réfléchir. Donc, ici aussi, Rabbi Sraha Ben Afkoula, c'était dans la confiance. Donc, il dit, je vois pas de danger. Mais s'il avait réfléchi qu'il y avait un danger, alors il a dit, il y a la savlanout, c'est quelque chose de bien. Mais de l'autre côté, dans la balance, il y a la destruction du temple. Donc, savlanout, destruction du temple, ben, il n'y a pas de problème. Donc, c'était quoi le problème? Puisqu'il n'avait pas peur, pardon, il n'avait pas peur, il n'était pas dans la peur. Rabbi Israël n'était pas dans la peur, il était dans la confiance. Et donc, il a mal analysé les tenants et les aboutissants. Ouais, quand tu es comptable, tu as deux côtés. Tu as les entrées, les sorties, pas comment, comment est-ce qu'on appelle? Les débits crédits. Ouais. On doit faire ça. Et donc, quelqu'un qui est dans la peur, il comprend qu'il y a des risques. Donc, il va analyser les risques. Mais Rabbi Sraria, il disait, moi, je vais faire ce qui est bien et tout ira bien. Ouais. Ah, Tarchov, ta vie est top. Peut-être. Donc, c'est ça l'idée. Donc, Ashrei Adam Mefached. Il dit, moi, je vais faire ce qui est. Ben, tu sais, c'est comme les gens, ils disent, moi, je vais être mévader et Dieu s'occupera de tout. On a tendance à penser comme ça. On nous a un peu éduqués à penser comme ça. Moi, je vais faire de la chassidoute et Dieu s'occupera de tout. Et parfois, c'est pas ça la bonne conduite à adopter. Ouais. Encore une fois, quelqu'un, il décide d'aller au collège. Ça marche pas. Ouais. Il pourra toujours s'inscrire à, s'appelle à, non, non, au à Pôle emploi. France Travail. Ouais. Quelqu'un, il peut décider d'aller au collège. Ça marche pas, c'est rattrapable. Mais quelqu'un, il décide d'aller grimper un mur de, voilà, c'est-à-dire, si quelqu'un, il décide d'aller grimper un mur de 1000 mètres sans corde, ouais, ben, s'il se rate, il y aura rien à rattraper. Et là, Rabbi Israël, il disait, moi, je vais faire la bonne chose, tout ira bien. Mais non, mais si ça va pas, ben, les conséquences, elles seront inimaginables. Donc, il faut que tu le prennes en compte. Mais c'était le Zaken chez Bessanedrine. Et donc, tout le monde y avait une différence. C'est-à-dire qu'en fait, c'est comme si, voilà, c'était comme si, voilà, le Gadol adore, le Hafetz Chaim, il parle. Bon, ben, la majorité des gens, ils vont se taire. Voilà, d'accord, on accepte. Donc maintenant, ce qu'on voit, c'est que le parad, c'est quoi ce parad? C'est qu'il faut craindre les conséquences de mes actes. Mais le problème, c'est que la Gemara, elle dit dans Brachot, On voit, l'agma a dit comme ça. Une fois, je ne m'appelle plus qui, il a vu un homme qui avait peur. Il y avait un homme, il était angoissé. Donc, ce Tana ou Samora, il a vu qu'il y a un homme qui est angoissé, il lui a dit, ah, t'es un fauteur. Pourquoi? Pardou betsiyan chataim. Les gens qui vivent dans la peur, c'est des fauteurs. Les gens qui ont peur. T'as des gens, ils ont peur de tout, peur du loup, comme dit la comptine. Ouais. Les gens qui vivent dans la peur, c'est à cause de leur faute. Comme ça, il dit le passouk. Alors, la Gemara, elle dit, mais comment tu peux dire que ceux qui ont peur, c'est des gens, ils ont peur parce qu'ils ont fauté? Mais le passouk qui dit, Ashrei Adam et Fafet Tamid. Donc, on voit que la peur, c'est pas la qualité du fauteur, mais c'est la qualité, justement, de l'homme bien. Il faut avoir peur. Donc, comment est-ce qu'on peut dire, tu n'as peur que si tu fautes? Et de l'autre côté, on dit, heureux l'homme qui a peur. Il y a un problème. La Gemara, elle dit non. Il faut avoir peur dans les divrei Torah. C'est quoi dans les divrei Torah? Il faut avoir peur que j'oublie. Il faut avoir peur que je respecte pas la Torah comme il faut. Parce que la Torah, si on avait, c'est quelque chose qui a besoin de chizouk. C'est pas parce que tu as étudié hier que tu étudieras demain. C'est pas parce que tu savais hier que tu sauras demain. Donc, un homme, il doit toujours vivre dans la peur que sa Torah, elle s'émousse. Mais vivre dans la peur que, voilà, je marche, j'ai peur que, comme dirait Astérix Obélix, j'ai peur que le ciel me tombe sur la tête. Eh ben ça vient de la faute. Alors Tosfot il demande, mais si quand on dit qu'il faut avoir peur, c'est que Bedivrei Torah. Alors quel rapport avec Kamsa et Bar Kamsa? Là-bas il s'agit pas de Divrei Torah. Rabbi Sraria ben Abtoulas, sa peur, c'est pas une peur d'oublier la Torah, c'est il devait avoir peur que le Beth Amidash soit détruit, puisque lui c'est un grand sadique, il avait aucune raison d'avoir peur. Donc pourquoi donc une fois la Gemara dit où est-ce qu'il faut avoir peur que dans Divrei Torah? Et une fois, on nous dit de quoi il faut avoir peur, des conséquences possibles. Donc les deux gmarottes, elles sont en contradiction. Ouais, j'ai besoin de répéter? Non? D'accord. Donc ça, c'est la question que Tosfot il demande. Et ils répondent comme ça. C'est que, en fait, alors Tosfot, ils répondent ce qu'ils répondent. C'est quoi ce qu'ils répondent? Leur lachon, il est comme ça. C'est quoi? C'est que de la même manière que quelqu'un qui étudie, aujourd'hui j'ai étudié quelqu'un, et des fois des gens ils ont étudié 20 ans, 30 ans, et après un beau jour ils arrêtent. Ouais, ils disent maintenant je vais aller me reposer un petit peu, je vais aller travailler, etc. Et du coup, ce qui se passe, c'est que souvent les gens qui ont étudié 30 ans et qui arrêtent d'étudier, c'est pas juste qu'ils arrêtent d'étudier, ils arrêtent d'étudier. Alors, faut dire, ne crois pas que parce que tu as étudié 30 ans, tu resteras un Talmid Chacham. Si tu arrêtes d'étudier, tu vas tout perdre. Tu vas tout perdre. C'est la fameuse histoire de Rabbi Elazar ben Harar qui est parti, qui a quitté le centre des Talmidei Chachamim, qui s'est installé, je crois, dans une ville thermale et qui a oublié sa Torah parce qu'il n'était pas dans, il était plus dans le Beth Amidrash. C'était le plus grand. La Mishnah dans Pirkei Avot, elle dit, on met tous les Chachamim d'un côté, Rabbi Elazar ben Harar de l'autre, il fait pencher la balance. Donc on voit qu'il ne faut pas se baser sur le passé, c'est pas parce qu'une fois j'étais un Talmid Chacham que je resterai un Talmid Chacham toute ma vie. Et ici aussi, ces gens-là, ils disaient, on est à l'aise. Ouais, on a une bonne relation avec les Romains, on sait comment ça se passe, on sait, il faut faire comme ci, il faut faire comme ça. Ouais, il faut envoyer un ambassadeur, ouais, de temps en temps, faut faire la diplomatie, on sait comment ça marche, on n'a rien à craindre. Et donc, ils se sont permis d'humilier Bar Kamsa. Pourquoi? Parce qu'ils étaient dans le confort et dans la confiance. Et de la même manière que celui qui étudie et qui arrête d'étudier, il est dans la confiance et c'est une confiance mal placée, de la même manière, celui qui se permet d'humilier l'autre en ayant confiance qu'il ne se passera rien, c'est une confiance mal placée. C'est-à-dire que l'idée, elle est, est-ce que je suis ici? Est-ce que je dois avoir peur que ça me tombe sur la tête? Non. En principe, non. Les maïs, on n'est pas tous des grands tzadikim, donc peut-être qu'on devrait, mais c'est un autre problème. Ouais. Mais un tzaddik, il est là, il n'a pas peur que la lumière lui tombe sur la tête. Il n'y a pas de raison. Mais il sait qu'il ne doit pas se permettre de s'asseoir sur ses lauriers et de croire que rien ne changera. Si tu continues pas à étudier, ça ira pas. Si tu te permets d'humilier des gens, ne crois pas que ta situation, elle va rester. Ce n'est pas parce qu'aujourd'hui, ta situation, elle est confortable que la personne que tu as humiliée, elle ne va pas se venger. Donc, le problème, le Ashrei Adam Mefached Tamid, ça veut dire quoi? Ça veut dire ne rentre pas dans un état de confiance. Ne te repose pas trop sur tes acquis, sur tes lauriers. De la même manière que la Torah que tu avais, elle n'est pas stable. De la même manière, la situation que tu as, elle n'est pas stable. C'est-à-dire quoi, elle n'est pas stable? S'il se passe rien, il ne se passe rien. Mais si tu t'amuses à humilier X, Y et Z, tu sais ce qui va se passer? Ce X, Y et Z, ils voudront se venger et ne te sois pas si sûr que ta situation est tellement garantie. Donc, en fait, c'est la même approche. Ashrei Adam Mefachet Tamid, ça veut dire quoi? Ne sois pas si sûr de ta situation. Parce que si tu ne fais pas attention, c'est-à-dire que si tu fais des gestes négatifs, eh ben, tu vas peut-être te couper l'arbre sous les pieds. Te couper, voilà, tu vas te couper l'arbre, tu vas couper l'arbre qui est sous tes pieds et tu vas te retrouver, et tu vas être embêté. Donc, avoir peur de choses qui arriveraient comme ça, il n'y a pas de raison. Pourquoi j'ai peur que ça va me tomber sur la tête? Non, c'est stable, il n'y a pas de raison. Mais si j'humilie des gens ou si j'arrête d'étudier, alors là, ne crois pas que le passé, il va forcément se perpétuer. Donc, t'as ce qu'ils disent, les divrei Torah qui s'oublient et ta situation que tu es tellement sûr que tu te permets d'humilier des gens, ouais, c'est toujours le même machal que voilà, les gens qui se permettent d'humilier les serveurs, les hommes de les femmes de ménage, etc. Et un beau jour, 20 ans plus tard, eh ben, on se rend compte que cet homme de ménage est devenu le roi et maintenant tu es très embêté. Parce que quand il était un misérable subalterne, on se permettait de l'humilier, mais maintenant qu'il est au-dessus de nous, on va le regretter. C'est une Gemara aussi, il y a des Gemarot comme ça. Donc, c'est ça le Mefachet Tamid. Ne sois pas si confiant de ta situation pour te permettre tout et n'importe quoi. Ouais. Ben non, ben non. Il n'y avait pas de Navi. Chagai, Sraré, Malachi, c'est Einstein. Il faisait partie de Knesset Agdola. Knesset Agdola, c'était le début du deuxième Beth Amikdash. Au début du deuxième Beth Amikdash, il y avait encore Chagai, Sraré, Malachi. Mais après, c'est fini. Voilà. Ils étaient, voilà, mais tout va bien. Mais de façon, mais qu'est-ce que ces pouilleux du Hamas, ils vont faire, quoi? Bah, on n'a pas besoin. Ouais, après, c'est la confiance et du coup, on se permet tout et n'importe quoi. Et ça, c'est ça que Tosfot, ils disent. Tosfot, ils disent comme ça. La Gemara, elle dit, il faut avoir peur pour le Talmud Torah. Ne te repose pas sur tes lauriers. Et ta situation aussi, ne te repose pas sur tes lauriers. Parce que quelqu'un qui est sûr de son état, il peut se permettre d'humilier les gens qui sont en dessous. Mais quelqu'un qui a besoin de tout le monde, quelqu'un, c'est pas le président de la communauté, il a pas, ouais, c'est pas le gros donateur. Le président, il sait que si c'est mis des gens à dos, les prochaines élections, il y aura des problèmes. Le donateur, par contre, il dit, bah, moi, je suis donateur, moi, je suis indéboulonnable. Jusqu'au jour où le type qui l'a humilié devient un plus gros donateur, et là, ça va plus. Donc, c'est ça, d'après Tosfot, c'est comme ça que Tosfot, il explique la Gemara. Et le Maharal, il dit, je comprends pas. Mais pourtant, alors, pourquoi est-ce que la Gemara, elle n'a pas dit ça? Donc, d'après Tosfot, c'est quoi le Yesod? Ashrei Adam Mefachet Tamid, c'est ne sois pas si sûr de ta situation. Donc, la Gemara, elle aurait dû dire ça. Pourquoi est-ce que la Gemara, elle dit, on parle de Talmud Torah?
Quel rapport avec finalement le rap la Rabbi Zaharé mais à Foula.
Ben Afkoula, c'est qu'en fait, il a pas, en fait, le problème, c'est qu'il pensait qu'on pouvait laisser quelqu'un humilié et on pouvait le
Mais il était là-bas.
laisser. Quoi?
Il était là-bas.
Non, mais il arrive après. Il dit, bah, d'accord, il est humilié. Même il est allé chez le roi et alors il se passera rien. C'est-à-dire que là, il est déjà après. Il y a un type qui était humilié à tel point qu'il est allé chez le roi, à tel point qu'il a fait un moum dans la Béma, il arrive chez toi. C'est-à-dire que le type, il est en mission. Il est en mission. Et Rabbi Israël, il dit, non, ça, il se passera rien. De quel droit tu dis ça? Tu es tellement sûr de ta situation. Ouais. Il s'est rien passé, il se passera rien. On a des bonnes relations avec le roman.
D'aller contre la loi, parce qu'on est bien avec le monde. Donc, pourquoi essayer de.
Mais en fait, mais ça, c'est une manière fausse de penser, ça, qu'en
Oui,
fait.
mais.
Oui.
On est bien dans ce conflit, mais on est là, quoi.
Mais en fait, c'est
Même si on
faux.
vit avec le bois, c'est pas très grave,
Mais
quoi.
en fait, le machal de ça, c'est quoi? C'est encore une fois, si on reste dans un thème, pas 7 octobre, mais c'est, voilà, où on a les rapports des enquêteurs qui commencent à sortir et on voit qu'en fait, tu avais tous les voyants en rouge, mais dans la tête, c'était impossible. Donc là aussi, en fait, tous les voyants, ils étaient au rouge. Tabar Kamsa, qui s'est fait humilier publiquement, qui est parti chez le gouverneur, qui a été Malchine, qui a dit du Lashon Hara, qui fait tout, il est dans le stratagème déjà. Quoi? Oui, il avait accès, il avait une audience chez le roi, etc., etc. Et c'est lui qui a été chargé de la mission. Et Rabbi Israël dit, ben non, 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 et toutes les cimes qui s'allument, oh, il se passera rien, il se passera rien. Vaut mieux pas réagir. Il était trop en confiance. C'est-à-dire que c'est pas juste, ouais. Si j'ai mon fils de 3 ans qui arrive et qui dit je suis très énervé, dis d'accord, c'est mignon, tu fais un câlin, on n'en parle plus. Mais là, c'est un homme qui est parti, voilà. Et donc là, tu dois dire, écoute, vaut mieux jouer, vaut mieux assurer ses arrières. Il l'a pas fait. Mais le Maharal, il dit, mais sauf, je comprends pas. Parce que la Gemara, elle aurait dû dire, c'est quoi, Ashra Adam Efafet Amid, elle aurait pas dû dire, Bedivrei Torah. Elle aurait dû faire une généralisation. Ne sois pas si sûr de ta situation. Ce soit dans la vie de tous les jours, que ce soit dans Talmud Torah, dans toutes les choses, sache que ta situation, elle n'est pas éternelle. La Gemara, elle dit pas ça, elle dit Ahou Bedivrei Torah. Donc là-dessus, ça, c'est la question que le Maharal y pose. Ouais, c'est que l'explication de Tosfot, elle est logique, mais les mots de la Gemara, ça marche pas. Les mots de la Gemara, sont plus forts que ça. Alors, il dit comme ça. Le Maharal, il dit comme ça. Il dit, en fait, c'est sûr que les Juifs, quand ils se sont, ces Juifs-là, quand ils ont fichu dehors Bar Kamsa, c'est sûr que c'était des pécheurs. Et puisque c'était des pécheurs, des fauteurs, alors, pachadou betzion chataim. Si tu te permets d'humilier quelqu'un, tu es un fauteur. Si tu es un fauteur, tu dois avoir peur. Ouais. Donc, en fait, pourquoi ils devaient avoir peur? Parce que c'était des fauteurs. Et la preuve, même que c'était des fauteurs encore plus que ça, c'est que le temple, il a été détruit à cause de ça. Donc, si le temple a été détruit, c'est que c'était des fauteurs qui devaient avoir peur. Ouais. Alors, on dit comme ça. Alors, en fait, il dit comme ça. C'est que le problème, il est comme ça. C'est que des fois, Rabbi Sraï Ben Afkoulas, lui, c'était un grand tzaddik. Il savait que la génération, c'était des fauteurs et qu'eux, ils devaient avoir peur. Mais moi, je suis un Talmid Raham. Je suis quelqu'un qui étudie. Alors, moi, j'ai pas, moi, à avoir peur des fautes des autres. Donc, eux, ils devaient avoir peur, mais moi, j'ai pas besoin d'avoir peur. Donc, moi, je peux rester droit dans mes bottes. Rabbi Israël Ben Afkoulas, il savait que les Juifs, c'était des fauteurs. Il savait que c'est dangereux. Mais il disait, moi, je suis un grand tzaddik, donc je peux rester droit dans mes bottes. Mais en fait, de la même manière que un grand Talmid Chacham, il peut oublier sa Torah, même qu'il la connaissait, de la même manière, il doit comprendre que de la même manière que sa Torah, elle peut s'en aller, même que jusqu'à là, j'ai étudié, de la même manière, même si moi, je suis un tzaddik, je dois avoir peur des fautes des autres. Pourquoi? Parce que le fait que je sois un Talmid Chacham, ce n'est pas une garantie. Pourquoi? De la même manière que ce n'est pas une garantie que je vais conserver ma Torah, ce n'est pas une garantie que les fautes des autres, elles n'ont pas un impact sur moi. Si, quand j'avais étudié, c'était une garantie, bah, la Torah, ça ne s'oublie plus. Mais puisque je peux oublier ma Torah, ça veut dire que je suis plus insensible à l'influence des autres. Et puisque je ne suis pas insensible à l'influence des autres, alors moi aussi, je dois avoir peur. Donc, en fait, lui, il disait, eux, c'est des fauteurs. Bien sûr que ces Chachamim qui ont vu Bar Kamsa se faire jeter, ils étaient dans la faute. Et je sais que toute la génération, elle est gangrénée par la Sinat Rinam. Mais moi, je suis un tzaddik. Donc moi, je peux avoir une attitude de rigueur, de dîn, pas de dîn, mais je peux, voilà, on va pas amener le corban, on va pas tuer, on va tout faire dans les règles. Je vais être anav, je vais être savlan. Pourquoi? Parce que moi, puisque je suis un tzaddik, je n'ai pas à avoir peur des conséquences de mes actions. Mais puisqu'en fait, c'est vrai que tu as un chacham, c'est vrai que tu as un tzaddik, mais ce n'est pas une garantie pour le futur, puisque dans le futur, tu peux basculer, eh ben déjà maintenant, ça ne veut pas dire que les fautes des autres, elles n'ont pas un impact sur toi. Et donc, il aurait dû avoir peur que les fautes de la génération, elles vont faire que son action, elle va entraîner une destruction. Lui, il pensait, si eux, ils font quelque chose, ça va être le désastre. Mais moi qui suis un tzaddik, il n'y a rien de mal qui peut arriver. Moi, puisque je suis un tzaddik, que je fais quelque chose de tzidkout, il n'y a aucun danger. Pourquoi? Parce qu'un tzaddik, un vrai tzaddik, il n'y a pas de danger dans ce qu'il fait. C'est vrai. Un vrai tzaddik, quelque part, il n'est pas en danger. Il peut faire ce qu'il doit faire et il se passera ce qui se passera et Dieu Bémet, il va arranger les choses. Mais le problème, il est que c'est vrai que c'est toi, t'es un tzaddik, mais ta génération, elle n'est pas. Donc, tu aurais dû avoir peur de l'impact que la génération, elle a sur toi et sur tes actions. Et donc, puisque la génération, elle était pourrie, ton action, elle va s'inscrire dans ce cadre-là. Et puisque si eux, ils avaient fait ça, si c'était pas Rabbi Sraï Ben Afkoulas, Si c'était les autres qui avaient fait ça, même lui, il comprenait que ça aurait mal fini. Pourquoi? Parce que c'est des réchaïm. Bah, lui-même, le tzaddik, il devait avoir peur quand lui, il le faisait. On va s'arrêter là. Mais voilà, ça, c'est l'idée que le Maral, il commence à développer ici. OK? D'accord? On va parler juste de... Voilà. Vous avez des questions?
Moi, juste une question, Rav.
Ouais.
Juste pas, mais c'est par rapport au Perek Révi.
Oui.
Que à la fin, alors vous avez dit comme quoi on est toujours en galoute du fait que qu'on nous a pas mis le miroir, on nous a pas écrit comme quoi on a fait la faute de Sinatrinam.
Ouais.
Mais alors finalement, alors c'est est-ce que c'est pas en partie de à cause de la Torah, à cause de ça qu'on du fait qu'on nous l'a pas écrit, qu'on fait toujours cette faute?
Quelque part, oui, mais parce qu'il n'y avait plus de Nevi'im.
Ah ouais. C'est vrai.
D'accord? Ok,
Ok.
alors je vais arrêter le partage et voilà. C'est une question, on en reparlera.
Pas d'agréable.
À Coldo.